France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver en direct du Carreau du Temple. Chaque mois, 42e rue invite sur scène, en concert, ceux qui font l'actualité de la comédie musicale en France. Eh bien, nous y voilà, au Carreau du Temple, une nouvelle fois réunis. Depuis 5 ans, le théâtre de la Huchette à Paris, célèbre pour sa cantatrice chauve de Ionesco, à l'affiche depuis plus d'un siècle, développe la création de pièces de théâtre musical originales. Il y a eu La Poupée Sanglante, d'après Gaston Leroux, le formidable comédien sur la musique de Raphaël Bancou. La nouvelle création s'intitule Exit, une histoire dans le monde du jeu vidéo, le destin d'une femme tiraillée à l'heure du Brexit entre son mari PDG français et un graphiste britannique. Tout à l'heure, Marina Pangos, Simon Eul, Harold Savary et les auteurs et compositeurs nous en proposeront de larges extraits. Mais d'abord, Mel Brooks, doublement dans l'actualité en cette rentrée. Alexis Michalik prépare l'adaptation des producteurs au Théâtre de Paris à partir de décembre. Mais dès la fin du mois, l'Opéra de Metz propose Frankenstein Junior. Les acteurs et chanteurs principaux nous en offrent aujourd'hui de larges extraits, à commencer par cette introduction au personnage principal. Alors, Frankenstein Junior, rappelez-vous, raconte l'histoire d'un jeune prof d'anatomie, Frédéric Frankenstein, qui préfère se faire appeler Frankenstein. Un homme pas fier des travaux menés par son grand-père, illustre créateur de monstres, mais dont le passé va le rattraper. Au début de l'histoire, nous découvrons Frédéric Frankenstein dans sa cour de classe. Le voici, incarné par Vincent Eden.
Frankenstein. Mon nom se prononce Frankenstein. Oui. Le monde entier sait ce qu'a fait mon grand-père. Mais par pitié, est-ce que j'ai l'air d'un fou furieux qui erre dans les cimetières et déterre des cadavres fraîchement inhumés? Ne répondez pas. Je suis pas un Frankenstein. Je renie mon aïeul et tous ses postulats. Je suis pas un Frankenstein. Je ris des loups-garous et autres Dracula. Aucune chimère pour moi. Je suis un scientifique. La soif de vérité, c'est ce que moi je revendique. Il y a un abîme entre les expériences fantasmatiques de mon dingue de grand-père et ma propre dévotion à la science. Ce qui nous conduit sans transition au sujet du cours d'aujourd'hui. Le cerveau, rien de tel que le cerveau. Les poumons ne sont que des joujoux comparés au cerveau. Dingo, je suis dingo du cerveau. L'être humain n'a jamais à ce jour fait mieux que le cerveau. Ma bouche, je l'aime 3 fois par jour. Quand je mange, quand j'ai mal au foie, je boude. Vive la vessie, je me dis quand je vis d'ange. Et vraiment j'adore jouer des coudes. Mais le cerveau, je précise en quelques mots, pas un grand génie qui ne le dise, qu'on se le dise, c'est beau, un cerveau.
Monsieur ?
Oui ?
Je ne suis pas sûre de comprendre la différence entre l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux volontaire.
Parfait ! Nos travaux pratiques d'aujourd'hui sont précisément une démonstration de cette distinction. Monsieur Itop, ici présent, avec qui je n'ai jamais travaillé, à qui je n'ai donné aucune instruction préalable, a gracieusement offert ses services pour la démonstration de cet après-midi. Monsieur Itop, bonjour. C'est le bulbe qui renseigne, le cortex qui s'en imprègne par des ondes qu'il atteigne et qu'il ressent ipso facto. Son thalamus palpite d'un réflexe qui l'agite. C'est ainsi quand on l'excite que le corps fait ce qu'il faut. Mais quelle merveille que le cerveau. Monsieur Hilton, veuillez vous lever de votre chaise et vous tenir au centre de la pièce, je vous prie. Quelle prestance. Monsieur Hilton, levez le genou gauche, je vous prie. L'autre gauche. Vous venez d'assister à un influx nerveux volontaire, monsieur Hilton, c'est le genou, merci. Les mouvements moteurs, en revanche, sont ceux qui se font indépendamment de notre volonté. Sale petite enflure. Non, mais non ! Observez le lien connexe qui déclenche le réflexe, qui, pour protéger son sexe, le fait agir aussitôt. Ceci, je vous explique, vient des jonctions synaptiques qui cheminent très méthodiques jusqu'à délivrer l'info. Mais quelle merveille que le cerveau. Mais Si nous bloquons ces influx nerveux par l'application d'une simple pression locale, ce qui peut se faire avec une pince métallique ordinaire, positionnée précisément sur le renflement de la racine nerveuse postérieure pendant, disons, 4 secondes. Misérable bougre de salopard ! Comme vous pouvez le constater, je viens de démolir les parties de Monsieur Hilltop d'un coup de genou. Pourtant, il ne réagit pas. Il ne ressent absolument rien. Ou presque. Donc, s'il n'existait pas ce courant continu d'impulsion motrice partant du cerveau, on s'effondrerait comme une branche de brocolis. Et je conclue ce petit aperçu en vous livrant ces quelques mots notés. Si certains organes ont quelquefois des pannes, on peut faire toute confiance au cerveau. Tout le monde !
Le cerveau ! Rien de tel que le cerveau. Le sommeil n'aura pas de fin. Nous la ferons bien haut.
On peut dire que je suis Copernic ou Kepler. Quand on compare un fruit, je fais des petits bonds en l'air. On peut m'appeler Gutenberg ou Einstein. Parler des Hertz, je ne dirai pas Nein. Mentionner Braque, je ne serai pas subtil. Dissolve votre taille, vous tomberez pile. Dès qu'on évoque Edison, je m'éclaire. Marie Curie, j'en veux bien pour grand-mère, c'est vrai. Y'a pas photo quand on me compare à Niepce. Qu'on dise plein de voix, j'aboie comme un calfeuf. Comment compare à ce vieil Archimède ou même à celui qui a inventé le tien. Mais de dire que je suis un Frankenstein est faux. Le cerveau.
Vincent Eden dans le rôle de Frédéric Frankenstein, accompagné par le baryton Jean-Fernand Setti, la soprano Léonie Renaud, Lisa Lanteri, Valérie Zakomer et Grégory Jupin, et au piano Sergueï Volouski. Mais Paul-Émile Fourny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Opéra de Metz. Bien sûr, ça sera un orchestre complet à l'Opéra de Metz.
Ah oui, oui, on a composé un orchestre de plus de 16 musiciens pour interpréter cette magnifique comédie musicale de Mel Brooks.
Alors, c'est surprenant. J'avais été voir à l'Opéra de Metz, qui est une maison vénérable, qui est plutôt versée dans les opéras classiques. J'avais quand même été voir Julie Fuchs il y a quelques années, qui jouait dans My Fair Lady, une version française. C'est la deuxième fois que je vous vois vraiment emprunter le terrain de Broadway. Pourquoi Frankenstein Jr.?
Ben, Frankenstein Jr., ça reste pour moi le film, bien évidemment. Hein. J'avais 15 ans lorsque j'ai vu ce petit bijou du cinéma et l'humour qui s'en dégageait. Donc pour moi, c'était évident que je pouvais et je devais faire cette comédie musicale à un moment donné sur notre scène, qui effectivement est une scène lyrique, mais qui est aussi une scène où toutes les disciplines se donnent, également la danse et également le théâtre. Donc la comédie musicale fait partie de notre programmation.
Alors, vous m'avez montré les décors. Ça sera, c'est pas le Freischutz, mais on est presque quand même dans un décor très grandiose.
Oui. Oui, je pars du principe que la comédie musicale, ça doit aussi être ça. C'est un décor. Il y a des dizaines de tableaux qui s'enchaînent. On fait appel à la vidéo, bien sûr, mais il y a aussi toute une construction. Il y a le château, il y a le fameux laboratoire mobile qui se déplace. Enfin, c'est vraiment un moment de grand théâtre. C'est aussi, 24 choristes, c'est aussi 14 danseurs et danseuses, donc une cinquantaine de personnes sur le plateau.
Pourquoi le faire en français ? Parce que l'adaptation de Stéphane Laporte ?
Eh bien parce que Stéphane Laporte a fait une très belle adaptation et que je pense que pour notre public, c'est pas mal aussi que ce soit donné en français.
Et dernière chose, ça parle de quoi ? Pour ceux qui, peut-être pas comme vous, connaissent pas le film.
Ah ben c'est tout le mythe de Frankenstein qui ne devient plus un mythe, mais qui devient en fait une grosse farce pour finir, puisque le personnage interprété par Vincent nous emmène dans le contraire au départ. Mais on va quand même rejoindre pour finir le fantastique avec la créature, avec ce monstre interprété par Jean Fernand. Et ce monstre va quand même prendre vie devant nous, sauf que la fin est beaucoup plus amusante que le vrai film, quoi, voilà.
Bonjour Vincent Eden.
Bonjour.
Écoutez, il y a 10 ans, vous étiez venu dans 42e rue.
C'est vrai.
Parce qu'on avait adoré. Vous étiez déjà Frédéric Franck.
Il y avait déjà la moustache.
Il y avait déjà la moustache. Et vous étiez au théâtre de Jazet. Déjà, c'était formidable. Ça fait quoi 10 ans plus tard? Alors, il y avait une bande son, il n'y avait pas un grand orchestre.
C'est
là,
vrai.
Déjà, ça fait quoi de reprendre ce rôle 10 ans plus tard de Frédéric Frankenstein?
Bon, déjà, c'est pas n'importe quel rôle. C'est un rôle qui avait marqué ma petite carrière. Donc, je suis hyper content de le reprendre. Et puis, effectivement, tout d'un coup, on a un orchestre qui est avec nous, on a des chœurs, on a un ballet qui danse. Donc c'est vraiment cadeau.
C'est, on a vu là la façon dont vous avez de dire tous vos mots. C'est un rôle très très volubile, on va dire.
Ah, c'est un mot très bavard. Merci Stéphane. Ouais, complètement. Oui, ça n'arrête pas du début à la fin. C'est un personnage qui parle, enfin qui parle vite. C'est moi qui le fais parler vite en vrai, mais il parle comme il veut. Moi, je trouve qu'il parle vite et il parle beaucoup. Il a beaucoup de choses à dire et voilà.
Est-ce qu'on s'inspire du film de Mel Brooks pour prendre ce personnage et
Oui, bien sûr. Alors, Gene Wilder n'est pas tout à fait le même Frankenstein que celui que j'interprète, mais bien sûr, ça a été très, très important. Et puis, j'adore son interprétation, donc je lui ai volé plein de petites choses.
Parce que Paul Emig, vous êtes aussi le metteur en scène. Mel Brooks s'est amusé avec les codes du film d'horreur. Donc, comment, et du film de Frankenstein, comment vous reprenez ça à votre compte pour en faire une comédie musicale, Vincent et Paul Emig sur scène?
Ah bien, avec le talent des artistes qui nous entourent, parce que il y a effectivement des caractères extrêmement définis dans cet ouvrage. Il y a bien sûr le professeur, mais il y a aussi Inga, il y a cette infirmière qui va l'accompagner dans ses aventures. Il y a bien sûr Elisabeth, la future femme du jeune docteur Frankenstein. Et c'est tous des caractères très, 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 très différents. Et je pense que on peut, en travaillant avec eux sur leur façon d'être et leur jeu, amener à cette comédie, voilà, et qui est bourrée d'humour et qu'il faut respecter cet humour-là, quoi, qui fait vraiment partie de la vie de Mel Brooks.
Alors nous partons maintenant, si vous voulez bien,
mais allons-y
vers la Transylvanie. Le docteur Frédéric Frankenstein est donc rattrapé par le destin. Il vient d'apprendre le décès de son bisaïeul. Il doit partir récupérer son patrimoine et ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux à être heureux de le voir arriver. Il y a d'abord Igor, le serviteur bossu, content de retrouver un maître, interprété par Grégory Jupin, et une jeune laborantine qui n'est pas blonde aujourd'hui, mais qui a une belle perruque blonde dans la production de Metz, un peu débridée, qui s'appelle Inga. Ils accueillent avec grand plaisir le docteur Frédéric Frankenstein, au piano, Sergueï Voluski.
Mais dites-moi, comment se rend-on au château ?
En Jutropferderschlagenwagen zur Frutchen.
C'est-à-dire ?
Dans la paille ! Nage, nage, nage dans la paille. Nage, nage quand c'est la pagaille. Si tout t'inquiète, fais un tour en charrette et puis nage, nage dans la paille. Nage, nage, nage dans la paille. Nage, nage, plonge, vaille, qu'évaille. Si t'es mal en point, monte là-dessus à pieds joints et puis nage, nage dans la paille. J'ai des bordes de merdi, docteur. J'espère que ça ne posera pas problème.
Oh, j'essaierai de m'y faire.
Trottinons les longs du chemin et que la joie explose. Rien ne vaut une meule des foins pour voir la vie en rose. Nage, nage, nage dans la paille que ton cœur sans canaille. Et peut-être qu'une pépée se laissera embrasser sans vraiment livrer des batailles. Alors nage, 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 nage dans la paille. Alors docteur, tu as une idée de position pour moi?
Plusieurs.
Oh, tant mieux. Ça veut dire que je suis engagée?
Disons que je pointe en grande partie dans cette direction, oui.
Nage, nage dans la paille. On remonte la route, descend la côte. Remonte la route, descend la côte. On ira bientôt en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En trottinant le long des chemins. Et que la joie explose. En bas, rien ne vaut une meule de foin. Pour voir la vie en haut.
Yodolerie, yodolerie,
nage dedans,
nage dedans. Yodolerie, yodolerie,
nage dedans,
nage dedans. Dans la charrette, viens te vider la tête. Allez, nage dedans la paille. Yodolerie, 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 lady, 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 yodolerie.
C'est quoi ça? Les loups, là?
La 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 loup. La la loup. La 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 lune.
Mais pourquoi vous parlez comme ça?
Je sais pas. Je sais pas. Je pensais vous faire plaisir, maître.
Ah mais pas du tout, hein.
C'est comme vous voudrez, je suis pas compliqué.
Nage dans la paille.
Lisa Lanteri, Grégory Jupin, Vincent Eden nage dans la paille lorsque c'est ce personnage du petit-fils de Victor Frankenstein arrive en Transylvanie et vous le constatez, est très bien accueilli. Alors c'est une joyeuse parodie de film fantastique que ce Frankenstein Junior, tout y est. La créature, comme en parlait tout à l'heure Paul-Émile Fourny, qu'on découvrira dans un instant, mais aussi une sinistre gouvernante, si je peux me permettre de dire ça, chère Valérie Zakomer. En fait, nous allons découvrir quelle était la fiancée du docteur Frankenstein. Je vous laisse l'expliquer. Valérie Zakomer reprend son rôle de Frau Büchler 10 ans après le théâtre de Jazet. Rien n'a changé. Adaptation française Stéphane Laporte. Au piano, Sergueï Voluski.
Yeah. C'était mon boyfriend. L'amour est une chose furtive. Pire qu'un brigand dans la nuit, on se tient sur la défensive jusqu'au jour où arrive un type comme lui. C'était un tinquet, un pervers. Il m'a donné 2-3 ulcères, mais j'en avais rien à faire. C'était mon boyfriend. Il courait après tout ce qui bouge. Il me traitait comme une vieille souche. Pourtant, je ne prenais pas la mouche. C'était mon boyfriend. Pire comme l'enfant qui vient de naître. J'étais couché parmi les fleurs. Il m'a vu là, le cruel m'a dit joyeux Noël et m'a farci pendant des heures. Ah! C'était un monstre et un pervers. Il m'a donné 2-3 ulcères, mais j'en avais rien à faire. C'était mon boyfriend. Je n'oublierai jamais ma rencontre avec Victor. C'était pour la fête de la pierre. Non, pas de la pierre. De la pierre. J'étais une brebis innocente. Et lui, un vieux bouc dépravé. On était fait l'un pour l'autre. Soudain, il a sorti son attirail et il s'est écrié, faisant une pétanque. Et nous voilà partis. Victor portait le cochonnet et je portais ses poules. Yeah. Non, pas ses poules, ses poules. Quelle journée, je n'ai jamais autant ri. Tir à l'arc, course en sac, croquettes. Victor a gagné à la pêche au canard. Sans canne à pêche, hein. Ce fut le coup de foudre. Oh. Ah, mon Victor, j'ai tendu mon cœur, mais on ne s'est pas marié pour autant. Si je disais le mot noce, il me caressait à coups de brosse. Quand je parlais d'être sa femme, il me passait les pieds à la flamme. Oh, mein Gott, c'est elle pourtant. Si je touchais à son vermouth, il me flanquait à une hupercut. mais j'en avais rien à foutre. C'était mon boyfriend. Yeah.
C'était mon boyfriend, Valérie Zakomer, dans le rôle de Frau Bischler, extrait de Frankenstein Junior, à la fin du mois à l'Opéra de Metz.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Paul-Émile Fourny, comment vous avez, établi votre casting?
Alors, le casting?
Parce qu'il y a un mélange d'acteurs du théâtre musical et de l'opéra, j'ai l'impression.
Oui, ben, j'ai la chance de fréquenter ces deux mondes. Alors, c'est vrai que Vincent, Valérie sont déjà des artistes qui avaient interprété cet ouvrage avec brio et j'avais envie de les emmener avec nous dans cette aventure. Mais il y en a d'autres, effectivement. Il y a Jean Fernand, là. Voilà, qui est un artiste lyrique, qui est un grand baryton, pas seulement en taille, mais vocalement aussi.
C'est fait vraiment un
très très bel artiste. Voilà, et il y a aussi Léonie Renaud, qui fait partie de la distribution et qui est aussi une artiste lyrique. Mais je sens chez eux encore cette envie d'aller peut-être un petit peu chercher ailleurs ce qu'on peut encore trouver dans la comédie musicale, voire même dans le théâtre, et peut-être comme ça arriver à participer à ce genre de spectacle plutôt qu'un ouvrage lyrique.
Jean-Fernand Setti, ça fait quoi de jouer, surtout que vous incarnez la créature dans Frankenstein Junior, donc on va l'entendre, ce n'est pas vraiment une voix de baryton. Vous avez accepté facilement ce rôle?
Oui, j'ai accepté facilement ce rôle. C'était pour moi un sacré défi, puisque j'interprète quand même une créature qui vient de naître. Donc, et dans le corps et dans la voix, c'est quelque chose de très différent que de ce que j'aurais pu faire en opéra. Donc j'adore les défis et c'était pour moi quelque chose de très intéressant et je suis pas du tout déçu de tout ce que j'ai fait sur ce spectacle.
Vous allez avoir un masque, hein, je crois que vous avez 2 heures de maquillage.
2 heures de maquillage où on change complètement le visage, j'ai plus de barbe, oh, quelle horreur.
Et Valérie Zakomer, ça vous fait quoi de reprendre ce rôle 10 ans plus tard de Frau Bischler qui est vraiment la peste, vieille, méchante.
Elle est pas méchante, il faut pas dire ça. Elle est timide un peu. Non, mais c'est un bonheur absolu. C'est un rôle qui m'avait énormément marqué, comme Vincent pour le docteur Frankenstein. Et c'est un immense bonheur de reprendre ce rôle. Et voilà, je remercie Paul-Émile avec grande déférence et je suis vraiment ravi.
Alors on va découvrir le monstre dans ses œuvres. Vous allez voir la voix de baryton de Jean-Vernon Setti. Il est présenté le monstre au théâtre de Transylvanie par le docteur Frankenstein, habillé comme un parfait gentleman, car voilà, il a beau être le petit-fils Frédéric du Vector Frankenstein, il a lui aussi créé sa créature. Que voici, habillé comme un parfait gentleman, marchant sur commande. Voici, regardez, il marche comme un robot sur scène et dansant bientôt sur une musique célèbre que vous allez tous reconnaître.
Mesdames et messieurs, de ce qui était il y a peu encore une masse incohérente de tissus sans vie, je vous présente le plus cultivé, le plus sophistiqué des gentlemen. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types wear a deck called pants with straps and cut away called perfect fits. Dressed up like $1 million trooper, trying my hard to look like Gary Cooper.
Super duper.
Come let's mix, we're Rockefellers, rock with sticks or umbrellas in their midst.
Bionic!
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue?
On that famous thoroughfare with the noses in the air.
High hats and arrow collars, white spots and lots of dollars. Spending every dime for a wonderful time.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where the fashion sits?
Put it on the Ritz.
different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, the perfect fits.
Acha, cha, 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 putting on the ritz. A toi.
Let's mix Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts.
Il s'appelle Jean-Fernand Setti, c'est un baryton et il incarnera sur la scène de l'Opéra de Metz effectivement la créature de Frankenstein. On ne peut que vous conseiller d'aller voir cette production, c'est à découvrir à l'Opéra Théâtre de Metz du 28 au 31 octobre avec le chœur, le ballet de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole avec l'ensemble orchestre Halloween dirigé par Aurélien Hazan-Zilienski. Il y aura même, on m'a dit, le 31 octobre une soirée spéciale Halloween où le public sera invité à venir déguisé. On découvre un dernier morceau. Vous allez voir, c'est bien Salas. C'est du Mel Brooks, adapté en français par Stéphane Laporte. Un grand moment, puisque la fiancée de Frédéric Frankenstein, Elisabeth, on peut dire peut-être une fiancée un peu frustrée, est à un moment kidnappée par la créature, le monstre. Et que va-t-il se passer? Je crois qu'on peut dire que c'est une révélation. Sur scène, Léonie Renault incarne Elisabeth et Jean-Fernand Setti, le monstre.
Profond, à moi l'amour profond, le genre d'amour profond qui comble votre âme. L'amour long, tu m'offres l'amour long qu'espère chaque femme. Bien ferme, très doux mais toujours ferme, c'est vrai qu'un amour ferme est source de joie.
L'amour profond, le genre d'amour profond qui comble son âme. L'amour dur, tel un roc toujours dur, au fait que l'amour dur devenait ma femme.
Jean-Fernand Setti, Léonie Renault, Lisa Lanteri, Vincent Weden, Grégory Jupin, à découvrir sans souci à l'Opéra de Metz dans Frankenstein Junior. Merci beaucoup et un petit mot à l'adaptateur Stéphane Laporte. Bonjour.
Bonjour.
C'était écrit vraiment comme ça, vraiment, chez Mel Brooks.
C'est tout Mel Brooks, oui, mais c'est pas moi. J'aurais jamais osé.
L'amour profond, l'amour dur.
Et oui.
Tout comment ça, c'est en anglais?
Deep Love.
D'accord.
Non, vraiment, c'est. Je
Art Love.
Ah oui, tout ça.
C'est vrai ?
Bien sûr.
Stéphane Laporte, merci d'être là avec nous. Vous êtes doublement d'actualité dans cette émission puisque vous avez adapté Frankenstein Junior, donc on pourra voir à l'Opéra de Metz. Et puis vous êtes le créateur avec Didier Bailly de cette nouvelle comédie musicale qui
avec
est un coup de cœur avec
Gaëtan Borg,
qui est un coup de cœur de ma part et qui s'appelle Exit. Alors ça se déroule au théâtre de la Huchette à Paris. Ça a ouvert au début de l'été. Étant donné son succès, ça a été prolongé. C'est une histoire moderne, contemporaine dans le milieu du jeu vidéo. Sybille, une scénariste, créatrice de jeux vidéo, prise en étau entre Antoine, son mari PDG français, et Marc, un directeur artistique à Londres. Tout cela alors que le Royaume-Uni s'apprête à voter le Brexit. Mm-hmm. Comment elle est née, cette œuvre, Stéphane Laporte?
C'est Franck Desmet, le directeur extrêmement talentueux de La Huchette, qui nous a contactés pour nous demander de créer une comédie musicale sur le Brexit, ce qui n'est pas forcément la commande la plus sexy de la Terre. Mais on s'est dit, on va essayer de tourner autour de ça. Et finalement, le Brexit est une toile de fond. Ce n'est pas du tout le sujet, évidemment. Sinon, je pense que personne n'irait. Mais voilà. Et on a le plaisir de se rendre compte, enfin, le plaisir ou le déplaisir de se rendre compte que c'est un sujet toujours d'actualité.
Alors, comme vous le dites, le Brexit est une toile de fond. Mmh. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que vous avez décidé de créer une comédie musicale dans le monde du jeu vidéo. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce domaine?
À l'origine, ce n'était pas forcément le cas. On savait qu'on voulait de toute façon écrire pour une femme, au centre du spectacle. Et dans mon idée, elle allait parler d'Aliénor d'Aquitaine, qui est une femme qui est une reine de France puis d'Angleterre, qui donc a vraiment partagé sa vie entre la France et l'Angleterre, en parallèle avec l'héroïne de notre spectacle. Et moi, j'avais envie que ce soit une doctorante. Et c'est Gaëtan Bord qui a eu l'idée du jeu vidéo, parce qu'il est d'une modernité ébouriffante, contrairement à moi. Et donc, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Et donc, c'est né tout simplement comme ça.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on... On assiste presque à la création d'un jeu vidéo. Je ne sais pas quelles recherches vous avez fait pour voir un petit peu comment on scénarisait. Vous avez fait des recherches pour entrer.
Ben, croyez-le si vous voulez, ça m'arrive de jouer à des jeux vidéo. Donc, donc oui, on ne recrée pas forcément un jeu vidéo, mais en tout cas, on crée une version théâtralisée d'un jeu vidéo.
Didier Bailly, bonjour. Alors, non seulement vous jouez dans La Cantatrice Chauve et vous jouez au Théâtre de la Huchette, mais vous êtes aussi compositeur. Je ne sais pas si votre micro marche, on va voir. Ça marche très bien. À partir de quand? Alors, il y a un an, on vous avait invité à 42e Rue Fesson Chaud. Exit était en cours de création et en fait, vous étiez venu avec le seul morceau qui a été composé à l'époque. En fait, à quel moment le compositeur arrive dans le processus?
Ben là, ça s'est fait, je dois dire... On n'ose pas le dire, mais grâce à la Covid, avec beaucoup, beaucoup de temps devant nous pour écrire, ce qui fait qu'on a eu, le gros luxe d'avoir et le théâtre, et les comédiens, et les auteurs, le metteur en scène, bien sûr, et le compositeur, complètement disponible pendant, je ne sais plus, 3 mois à peu près, hein, on a travaillé. Et donc, l'œuvre qui était quand même commencée bien, enfin, aux trois quarts à être écrite, a été continuée au fur et à mesure. Donc, En ce qui me concerne, il y a eu un mélange entre des chansons des airs qui existaient sans parole, sur lesquels Stéphane et Gaëtan ont écrit, et des choses qu'il a fallu mettre en musique et qui étaient des textes. Et ça s'est fait au fur et à mesure. En fait.
Alors prenons l'exemple de cette première chanson que vous nous interprétez, Simon Heul, bonjour, et Marina Pangos, qui sont le couple français dans cette œuvre. Vieille parfaite, ils parlent de leur amour qui durera toute la vie.
En principe.
Alors comment est née cette chanson? C'est là en l'occurrence la mélodie.
Alors celle-là, curieusement, elle m'a donné du fil à retordre parce que je leur avais proposé une mélodie et puis quand j'ai reçu le texte, je me suis dit mais ça va pas du tout dessus. Enfin excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire, hein, mais.
La musique n'allait pas sur le texte.
C'est la musique qui n'allait pas sur le texte, qui avait été écrit après. C'est un peu bizarre, c'est surréaliste. Et non, en fait, c'était des histoires. Je me suis dit, on va changer. Et donc, c'est venu après. Voilà.
Quel style musical, là, vous vouliez?
Pardon,
quel style musical vous vouliez pour cette chanson?
Là, par rapport aux comédies musicales précédentes, on était quand même dans une actualité. Enfin, on était plus. Je vois la poupée sanglante avant, c'était vraiment, ça se passait au 19e. Huckleberry Finn, c'était aussi. C'était aux États-Unis. Là, on était plus dans l'actualité. Hein, donc, je pensais à une musique un peu qui évoque un peu la pop anglaise. Voilà. Et surtout, on a eu 3 jeunes arrangeurs. On en parlera peut-être après, mais qui ont donné une couleur bien pop à tout ça, quoi.
Alors on va découvrir tout de suite ce premier extrait alors que le compositeur Didier Bailly se met au piano. Marina Pangos est donc Sybille. Simon Heul incarne Antoine et il se jure un amour parfait.
Plus belle encore qu'il y a 7 ans, Oui, c'est fou comme sur toi glisse le temps. Encore plus fou quand je me dis que l'an prochain c'est ta quatrième décennie. Dis-toi qu'une fois passé 30 ans, c'est le commencement de la fin. Moi, il me reste encore 2 ans, et c'est bien. Mais tu seras une vieille parfaite, ton siamois, ton châle et ton tilleul, je les vois. Tu seras une vieille très chouette, oui, crois-moi. Alors, laisse venir les années. Dis-toi pour te consoler qu'à défaut d'être, tu auras été. Oui, tu seras une vieille parfaite, ton fison, tes perles et ta paire de Méphisto. Tu seras une vieille refaite, mais pas trop. Alors, laisse venir les années. Dis-toi pour te consoler qu'à défaut d'être, tu auras été.
Ma quatrième décennie.
Oui, bah oui, l'an prochain t'as 30 ans, quatrième décennie. Mais t'inquiète pas, amour, j'adore les vieilles.
Je me serais contentée d'un « je t'aime », d'un petit bisou, d'un gros bouquet. C'eût été l'option romantique. Merci pour ce joli poème qui me confirme, s'il le fallait, que tu es un scientifique. J'ajouterai que oui, d'accord, tu te coltines une vieille. Tu as raison, mais pour moi c'est pire encore. Qui vois-je à mon réveil un jeune con?
Tu seras une vieille parfaite.
Je me serais contentée d'un je t'aime.
Ton siamois, ton châle,
d'un petit bisou, d'un gros bouquet.
Et ton tilleul, je les vois.
Si c'était l'option romantique.
Tu seras une vieille très chouette.
Merci pour ce joli poème.
Mais crois-moi, alors, laisse venir les années. Dis-toi pour te consoler.
Tu as raison.
Qu'à défaut d'être.
Mais pour moi, c'est pire encore. Qui voit jamais mon réveil.
Tu auras été.
Vieille parfaite, Marina Pangos, Simon Heul et le compositeur au piano Didier Bailly. Premier extrait d'Exit, cette comédie musicale dont, eh bien, tout tourne autour de la figure. En fait, Stéphane Laporte nous en a parlé tout à l'heure. Une femme importante, Aliénor d'Aquitaine, héroïne du nouveau jeu vidéo qu'imagine Sibylle. Une figure historique particulière puisqu'elle témoigne des relations entre la France et l'Angleterre. Elle a épousé successivement le roi de France et puis ensuite le futur roi d'Angleterre, Henri II. On est au tout début de la pièce. Sibylle est dans le bureau de Marc. Elle lui explique l'idée de son jeu après un jeu vidéo sur Marie-Antoinette qu'elle a inventé. Un jeu vidéo sur Marie Curie, elle imagine de créer un jeu vidéo autour de cette femme libre, guerrière, que les hommes ont toujours tenté de soumettre et qui n'a jamais capitulé. Ça donne un magnifique portrait de femme, une chanson intitulée « Mon Aliénor », interprétée par Marina Pangos en direct du Carreau du Temple sur France Musique.
Trop jeune pour avoir vraiment le choix, on lui donne un futur roi. Mon Aliénor, tes années, elle va vivre sans amour, étrangère même à la cour. Mon Aliénor, mais elle n'a jamais renoncé à trouver, sans un doute, coûte que coûte, l'homme courageux, le vaillant chevalier.
et dont elle rêvait pour elle. Et cet homme, dès qu'elle croise son chemin, elle le voit dans son destin. Mon Aliénor, un divorce et la reine quitte son roi, qu'elle en ait ou non le droit. Elle n'a jamais hésité une seconde, sans un doute, coûte que coûte. Elle s'est battue pour faire naître le monde dont elle rêvait pour elle. C'est elle qui choisit, c'est elle qui décide, elle qui pense, c'est elle qui mène sa danse. Et bientôt, la voilà de nouveau reine. Qu'elle est loin son Aquitaine, mon Aliénor. Je la vois tenant tête à deux maris, traversant les décennies, mon Aliénor. Mais elle n'a jamais sacrifié ses espoirs, sans un doute, coûte que coûte. Elle s'est battue pour garder le pouvoir dont elle. Épouse et mère, mon Aliénor, sous la neige, à cheval, à 60 ans, en croisade ou au couvent, mon Aliénor. Un destin, une femme exceptionnelle, ma muse et mon modèle.
Marina Pangos, mon Aliénor, extrait de Exit, la comédie musicale.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Ravi de vous accueillir, Marina Pangos.
Bonsoir, vous bonjour. Êtes...
Bah, il fait nuit, mais il est 13h, vous savez.
Bonjour,
13h42. Vous avez reçu l'an dernier le prestigieux prix de la critique belge de l'espoir féminin pour votre rôle dans My Fair Lady, Eliza Dolittle. Vous êtes dans la troupe de Chantons sous la pluie, mais vous êtes aussi metteuse en scène de comédie musicale. Je disais tout à l'heure, c'est un beau portrait de femme, non ? C'est un super rôle féminin,
ah, c'est
ça.
Sublime. C'est sublime, c'est un personnage assez incroyable. Je ne connaissais pas avant de découvrir le script. Enfin, un petit peu, et du coup, je me suis plongée dans cette histoire d'Aliénor d'Aquitaine. C'est une femme incroyable, qui était très en avance sur son temps, qui a fait beaucoup de choses pour la place de la femme, pour aussi retrouver un petit peu, créer en tout cas le romantisme autour de la femme, comment on peut la courtiser plutôt que de la considérer comme un trophée.
Et votre rôle est très fort dans la pièce Exit.
Le rôle est très fort, oui. C'est un rôle qui parle à beaucoup de femmes, de tous les âges d'ailleurs, avec qui je discute après la représentation. C'est vraiment une émancipation féminine. Oui, elle est indécise et puis elle grandit, elle avance au gré de ses rencontres et elle prend plus confiance en elle. Et c'est un vrai rôle de femme très, très intéressant et très important.
Je voulais aussi parler avec Patrick Allouin. Bonjour.
Bonjour.
Sur la scène du théâtre de la Huchette, vous faites des merveilles. Vous êtes le metteur en scène. La scène fait quoi ? 2 mètres ? 1 mètre ? Je ne sais pas. C'est tout.
Alors, elle doit faire 4,50 mètres d'ouverture quand même. Et par ailleurs, elle est assez profonde. Ça, on ne le voit pas bien quand on est dans la salle, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités parce qu'elle est quand même très profonde.
L'idée, c'était quoi ? C'est que les spectateurs rentrent dans un jeu vidéo ?
Alors, pas tout à fait le jeu vidéo. Il y a une chose qui, dans le spectacle, est récurrente, c'est que Sybille fait des allers-retours sans arrêt entre Londres et Paris, enfin, Londres et Pantin, pour être précis, et elle est souvent dans le train, dans l'Eurostar. Et donc, l'idée, c'est qu'on a voulu essayer de transformer le plateau et la salle de la Huchette en wagon d'Eurostar. Et donc, on a créé, alors c'est pas exactement un wagon, c'est une atmosphère de TGV avec des lignes très droites, des lignes très fines, un peu froides, et en fonction des lieux où on est, Paris ou Londres, on a accessoirisé l'espace.
Et puis, quand même, des jeux vidéo qui se déroulent sur
scène. Alors, effectivement, on en profite puisque c'était une grande boîte blanche pour projeter des images. On voulait utiliser plein de choses à la fois, les infos, etc., parce que c'est un monde moderne, concret, quotidien. Finalement, on s'est contenté de s'en servir pour la vidéo. Ça nous permet non pas de montrer les jeux, mais de créer un décorum de vidéo, parce que les jeux vidéo sont incarnés par les comédiens sur le plateau.
On va continuer à découvrir cette histoire d'amour, de double amour. Tout à l'heure, on entendait Antoine, le mari ou le petit ami, je ne sais plus très bien, de Sibylle, le mari français ou petit ami français. Et maintenant, la voici en compagnie du designer britannique. Et apparemment, l'épanchement n'est pas très loin.
D'un mot, et soudain plus rien n'est comme avant. Il suffit d'un mot, rien qu'un mot, pour arrêter le temps. Il y a dans ce mot la promesse qu'à deux on va braver la vie, sauf lorsque quelqu'un le dit.
Il suffit d'un mot pour qu'enfin un cœur se mette à nu, mais dans un écho résonne l'innocence qu'on a perdue. Et les jours tranquilles ne reviendront plus, tout ça pour un mot qu'on a dit trop tôt. Et dans ses yeux je ressens comme un feu qui m'emporte. Rien ne l'éteindra plus, seul je t'aime.
Il suffit d'un mot et soudain
les autres mots s'effacent.
Il suffit d'un mot n'est plus sa place.
Ça ne change rien qu'on l'ait dit ou pas malgré soi
tant de fois.
Quand quelqu'un le dit tout haut, il vous laisse en mille morceaux.
Il suffit d'un mot, rien qu'un mot, pour arrêter le temps,
pour qu'un cœur se mette à nu. Mais dans un écho résonne l'innocence qu'on a perdue.
Et soudain plus rien n'est comme avant.
J'ai hâte et je tremble de savoir bientôt. Y a-t-il un espoir?
Y a-t-il un espoir? Ou bien est-il déjà trop tard?
S'il était trop tard pour voir si pour nous de ce mort sera le mot de trop.
Harold Savary, Marina Pangos, au piano, le compositeur Didier Bailly. Il suffit d'un mot. Alors Stéphane Laporte nous l'a expliqué, Exit parle en filigrane du Brexit, l'histoire se déroule en 2016, d'où ce titre qui raconte l'emballement. Chacun est chez soi, Marc est à Londres, il peaufine un croquis, Antoine est à Pantin, il regarde la télévision, Sibylle joue avec les deux à tour de rôle, elle est assise devant son ordinateur et chacun commente les sondages.
Ce matin, plutôt couvert, du samedi 16 avril. Il reste encore 68 jours de ces débats débiles. Ça fait un bail qu'on nage au cœur des sondages. En juin prochain, les Britanniques vont-ils quitter l'Europe?
Dans ce brouillard très londonien
que nous annonce l'IFOP,
annonce l'IFOP,
y a-t-il une évidence? Quelle est la tendance? 48% pour le oui, 42% pour le non. médicaments, on a les 10% de sans opinion.
Marc. On vient de les marier à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle, duchesse, héritière de toute l'Aquitaine, lui, futur roi de France. Ils sont assis au centre d'une immense table, devant 1000 invités. Toute la France, toute l'Aquitaine ont les yeux rivés sur eux. Et là, Louis se penche et lui glisse quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'il lui dit ?
À mon avis, rien. C'est pas un moment d'intimité. Ce sera pour plus tard dans la soirée. Là, ils sont en représentation. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un lien de confiance.
Un lien de confiance ? Mais oui, tu as raison. Ils ne sont pas obligés de se parler.
En ce matin, encore couvert,
encore du
vendredi
3 juin.
3 juin, il reste encore 20 jours et quelques.
Encore
de ce tintouin. On en a notre dose. Vivement qu'il y ait autre chose.
Dans les journaux,
dans les journaux.
À la télé, Boris étale sa tronche. Encore pendant ce temps, à Buckingham, y'a pas un qui bronche. Est-ce que la reine se gosse des chiffres d'Ipsos?
44%
pour le oui,
46% pour le non. Et immanquablement, on a nos 10% de sans opinion.
Tu bosses sur quoi ?
Non, rien, le banquet du premier mariage.
Ah, je peux t'aider ?
Non, je réfléchis.
Ah oui, c'est sûr que là, je peux pas t'aider.
T'es bête.
Allez.
Bon, si tu veux. Donc, Aliénor et Louis viennent de se marier, ils ont la pression, tout le monde les regarde, et là, il lui dit un truc dans l'oreille. Qu'est-ce qu'il lui dit ?
On fait un enfant.
Voilà, merci chérie.
Bah quoi, elle est peut-être partante. Et tu sais, des fois,
tu
il y a des couples...
Tu vas recommencer, là ?
Ah oui, oui. Quand tu seras prête.
Bon, ce matin, toujours couvert.
Du jeudi 16 juin, 8 jours encore,
avant
de clore ce scandaleux scrutin. À le scrutin, tous les médias débarquent. Où est-ce qu'on les parque ? François Hollande, toute cette histoire, ça va le rendre blanche, blanche, blanche. Même Angela fait la brave vache, mais elle n'emmène pas large.
N'emmène pas large.
Pas large.
Que nous dit-on ici à la vie ?
À la vie,
à la vie,
la vie.
Je comprends pas.
C'est tellement vivant, je suis...
C'est elle qui m'a soufflé.
Qui ça, elle ?
Je comprends pas.
Aliénor, la petite voix. T'avais raison.
Ah.
Elle me parle.
Tu vois.
Quand je ne sais plus où je vais dans l'écriture, je m'en remets à elle. Je sens sa présence. Elle prend le dessus, j'entends ses mots et j'ai plus qu'à noter. Ça pourrait aussi bien durer 48 heures comme une transe. Ça te fait ça, toi aussi, quand tu dessines ? L'impression de ne plus t'appartenir ?
Non.
Je comprends pas !
45% pour rester, 45% pour partir. Et puis nos 10% qui véritablement, indubitablement, incontestablement,
l'injurement,
calmement,
calmement,
Harold Tabary, Simon Heul, Marina Pangos, au piano Didier Bailly. Les sondages, extrait de Exit, cette comédie musicale. On referme ce 42e rue avec la chanson comique de différence entre les Britanniques et les Français. Antoine est enfin venu à Londres rencontrer Marc, le directeur artistique, pour parler du projet que concocte sa copine de jeux vidéo autour du personnage d'Aliénor d'Aquitaine. Une rencontre cordiale, mais les différences entre les deux sont nettes. Simon Heul, Harold Savary.
Qu'est-ce qu'on devait dire ? Je sais plus.
Finalement, il avait raison.
Ah oui, mais finalement, il avait raison, De Gaulle. On est incompatibles.
Tu cites De Gaulle, toi, maintenant.
On n'est pas incompatibles, Antoine. On a juste 2 ou 3 contentieux à régler.
Comme Harry Potter et Voldemort.
Si tu veux.
Je sais pas toi, mais moi, Jeanne d'Arc, j'ai toujours pas digéré.
Mais ça va pas, non ?
Ah tiens, moi, ce que j'ai toujours pas digéré, c'est Diana. Les princesses des autres, on n'y touche pas. On leur fiche la paix, et puis voilà. Vous n'avez aucune éducation.
Vous sortez de prison, les pires crapules. Mais les petites pucelles, vite, on les brûle. Vous êtes pyromane par tradition. Vous êtes...
Vous êtes...
Vous petit déjeuner à la saucisse, en buvant du vin qui se dévisse. Vous n'avez aucune éducation. Vous êtes...
Vos politiciens sont phallocrates, vos garçons de café des psychopathes. Vous êtes emmerdeurs par tradition. Vous êtes fiers de faire tout le temps la grève.
Vous êtes fiers de votre famille royale.
C'est vrai.
Vous laissez jouer Keira Knightley.
Vous laissez chanter Ariel Dombal. Vous êtes...
Vous êtes...
Vous êtes...
Vous êtes...
Vous êtes vraiment nos pires voisins. Voisins doublés de parasites. On n'est jamais d'accord sur rien. Quelquefois je me dis vite un Brexit. C'est bon de se chercher des bouts. Et nous amour, chacun hésite.
Vous êtes fuyants.
Vous êtes filous.
Peut-être bien
qu'il nous faut un bon Brexit.
Voilà.
Vous prenez une douche une fois par mois, et encore s'il ne fait pas trop froid, vous êtes bactérien par tradition.
De la guerre mondiale au giboulé, votre seul recours, une tasse de thé, y'a qu'à regarder vos dentitions. Vous êtes trop poli pour être honnête.
Vous prenez la terre entière de haut. Vous êtes tous au fond un peu timbrés.
Vous êtes tous au fond un peu homo.
C'est bon de se chercher des bouts. Et nous amour, chacun hésite.
Vous êtes fuyants.
Vous êtes filous. Peut-être bien qu'il nous faut un bon Brexit.
Le bon goût anglais n'existe pas.
C'est comme en France, les gentlemen, vos joueurs de foot sont des divas.
Vos supporters des hooligans.
Vous êtes bizarre, vous êtes gênant. Vous êtes odieux, vous êtes navrant. Vous êtes des monstres, oui. Mais de tous les monstres sur Terre, on a beau dire, on a beau faire, vous êtes nos monstres, les monstres qu'on préfère.
On y va.
Hein ? Ah bah non, attends, on commençait tout juste à s'amuser.
Mais oui.
C'est pas une question, Antoine. On y va.
Bon, la bourgeoise a parlé.
Partie remise. Je vous raccompagne.
L'Empire britannique, c'est plus trop ça. Mais putain, une chose ne change pas. Vous êtes alcoolique par vocation.
Les Français sont classe à temps partiel. Pour vous dire ta gueule, c'est spirituel. Les gros mots, c'est votre grande passion. Vous êtes râleur.
Vous êtes narquois.
Vous êtes mesquin.
Vous êtes sournois.
Vous êtes des monstres, oui.
Mais de tous les monstres d'Europe et d'ailleurs,
Vous êtes les monstres les plus chers.
Antoine !
À nos cœurs.
On vous conseille de courir aller voir Exit avec Harold Favary, Simon Heul, Marina Pangos, Didier Bailly au Théâtre de la Huchette et Frank Einstein Junior à l'Opéra de Metz. Le prochain cabaret 42e rue, c'est dimanche 7 novembre. Merci aux équipes techniques. Très bon dimanche sur France Musique.
Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.